Et on regarde des chiffres, on se rend compte que moins de 10% de la population de cette planète possède plus de 85% des richesses. Est-ce que c'est juste? L'injustice grandit. Il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées, réfugiées, qu'aujourd'hui. Plus de 70 millions de personnes. Vous rendez compte? Il y a combien en France? 60? C'est toute la France qui est en vadrouille. On voit plus de personnes déracinées, désespérées. Quand on voit l'histoire des Rohingyas en Birmanie, le désespoir de ces gens-là. Il y a plus de 245 millions de chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui. 1 sur 9. C'est les chiffres de nos voisins. Ils sont fiables. C'est inquiétant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ceux qui passent leur baccalauréat en ce moment, malgré un peu de chaleur, sont conscients du privilège qu'ils ont de faire des études, d'avoir accès à une profession, à un meilleur salaire par la suite? Pensez à tous ces réfugiés, 50% sont des enfants. Nous savons que c'est à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans que notre avenir se décide. Est-ce que nous ferons des études ou est-ce que nous n'en ferons pas? C'est tellement important. C'est comme un carrousel. Partout où on regarde, on voit des problèmes sans solution, des questions sans réponse. Est-ce que nous avons une réponse? À quoi? Quel est donc le problème? Il n'y a qu'un seul problème. C'est que le péché règne dans le cœur de l'homme. Les Nations Unies peuvent se réunir, chercher des nouvelles solutions, tout ce qu'ils veulent. Tant que le problème de fond dans l'homme n'aura pas été réglé, rien ne changera. Alors, d'un côté, c'est pas bon, mais de l'autre côté, je crois qu'il y a un espoir. Est-ce qu'il y a un projet sur cette planète qui peut améliorer ça? Est-ce qu'il y a un projet? Vous en connaissez un? Moi, j'en ai trouvé un dans Éphésiens 1:10. Paul parle du projet de Dieu. C'est incroyable, hein? Il utilise, enfin, dans ma version, il utilise le projet, le mot projet qu'il voulait réaliser au temps choisi par lui pour rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef. Ah, Jésus-Christ. Un seul chef. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance. Chers amis, quelle bonne prédestination, être choisi par Dieu, d'avance, pour faire partie. Il y a de l'espoir, et cet espoir est dans le projet de Dieu. Et cet espoir a un nom, c'est Jésus-Christ. Et dans Jean 3, 17, il nous est dit, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il sauve le monde, exactement. C'est écrit. Le but, c'est qu'il sauve le monde. Alors, voilà, on a un problème, on a une solution. Comment mettre ça en place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'élément clé pour que cela se fasse? On va aller dans un texte très connu. On va rencontrer un religieux, un monsieur très bien, à qui Jésus va donner une leçon. Cette leçon, elle est aussi pour nous, et elle est pour ceux du dehors. Jean 3. Ce monsieur s'appelle Nicodème. On le connaît. Quelle leçon il a eue. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus de nuit, un peu en catimini. Il lui dit, « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ben » c'est bien ce qu'il dit, non? Bravo. Jésus, il est content. Il répond tout de go, il lui dit, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Il répond à côté, non? C'est pas ça, non? L'autre, il vient lui faire des félicitations et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Nicodème dit à Jésus, Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond. Jésus n'a toujours pas compris. Il lui dit, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alors Nicodème demande à Jésus, mais comment cela peut-il se faire? Et Jésus répond, tu es un maître reconnu en Israël et tu ne sais pas ça. Pouh, quatre fois. Vous connaissez le film? Imprime, où il tape la tête contre le panneau de interdit de stationner. Jésus lui dit quatre fois, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas y entrer. Il y a quelques leçons que nous allons tirer de ce petit texte. La première leçon, c'est que vous pouvez être religieux et pas né de nouveau. C'est exactement ce que Jésus dit à Nicodème. Tu es un homme très religieux, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Vous pouvez être religieux et même reconnaître dans d'autres personnes l'action de Dieu sans être né de nouveau. Vous pouvez faire des études de théologie sans être né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et puis il y a cette chose qu'on voit partout, dans les milieux bouddhistes, hindouistes, musulmans, partout, catholiques, peut-être même parmi nous des fois, c'est qu'il faut faire des bonnes œuvres. J'ai donné tellement d'argent pour les bonnes œuvres que le bon Dieu va bien fermer un œil quand je me présenterai. Peut-être je rentrerai par la petite porte, mais quand même. Et puis, au Laos, j'ai rencontré des gens qui ont mis des fortunes dans les temples, se disant que ça va bétonner mon entrée. Il n'y a pas de souci. Et j'ai même un bonus. J'en ai tellement que si je fais une bêtise, ça va être couvert. Comment faire comprendre à ces gens que ce n'est pas par vos œuvres que vous pouvez changer, être purifié, être juste devant Dieu? Qu'est-ce que je peux bien leur raconter à ces gens-là? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un monsieur qui a pris un café et une belle pâtisserie dans un parc à l'orangerie. Il y a des oiseaux, il y a des moineaux. Et pendant qu'il dégustait sa pâtisserie, il y a un moineau effronté qui s'est assis sur sa tasse de café. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Poup! Il lui a mis une crotte dans le café et il est reparti. Oh là là, le monsieur il s'est levé indigné, il est allé voir le barista au bar, il a dit, regardez ça. Le gars lui a dit, il n'y a pas de souci, monsieur, je vais vous mettre un peu de sucre. Et il a mélangé, tenez, votre café. Ah non, ça ne va pas, il lui a rendu la tasse. Il a dit, attendez, je vais vous mettre un peu de crème, on va mélanger tout ça et ça va aller, on ne le verra pas. L'autre a dit, mais non. Il est pollué ce café, il est pourri. Et c'est comme ça, avec toutes les bonnes œuvres que nous pensons amener devant Dieu, c'est du sucre, c'est du lait, c'est de la crème dans quelque chose qui est pollué, qui est pécheur. Il faut naître de nouveau. C'est pas de moi cette histoire, je l'ai lue et j'ai trouvé ça très intéressant pour pouvoir approcher et faire réfléchir. Jésus dit quatre fois, pour rentrer dans le royaume de Dieu, ou dans le paradis, il faut être né de nouveau. C'est l'élément que nous devons annoncer dans ce monde. Si Jésus le dit avec une telle force, d'une telle clarté, d'une telle netteté, ben nous, on n'a pas d'autre message que celui du Maître. Nous qui sommes nés de la chair, même nos enfants, sont morts spirituellement. Ce n'est que par la nouvelle naissance que nous venons à la vie spirituelle. Je vais vous lire quelques passages de 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le message de l'Évangile n'est pas universaliste. Il y a ceux qui acceptent et ceux qui rejettent, ceux qui ont Jésus et ceux qui ne l'ont pas. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin, aujourd'hui, mais si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas cette certitude d'avoir Jésus dans votre cœur, c'est l'occasion de faire ce pas. 1 Jean 5, 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Tous ceux qui sont nés de Dieu peuvent le dire. Jésus est le Christ. Et dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il est dit « À ceux qui ont accepté la parole, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce qui veut dire « Ils sont nés de nouveau. » À ceux qui ont accepté la parole c'est Jésus. Si aujourd'hui tu acceptes de donner ta vie à Jésus, si tu crois que Jésus est la solution de ton péché, de ta réconciliation avec Dieu, immédiatement tu as la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Immédiatement le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. C'est quelque chose d'immédiat, instantané et qui est fait une fois pour toutes. Ce qui est né de l'Esprit de Dieu est Esprit. Jésus vient de le dire. Dans Jean 6, 36, Jésus dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Dans Jean 15, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire et sûrement pas vous sauver. Celui qui croit au Fils a la vie pour toujours, la vie éternelle. Comme moyen mnémotechnique, vous avez Jean 6, 36, vous avez Jean 3, 36 et Jean 1, 36. C'est quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jean 6, 36, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie. Jean 1, 36, voici l'agneau de Dieu. Êtes-vous sûr d'être enfant de Dieu? Êtes-vous sûr? Personne. Oui. Comment pouvons-nous être sûrs de cela? Romains 8, 16, il est dit, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, voilà le mystère expliqué. Comment pouvons-nous avoir cette assurance du salut? C'est qu'au moment de la nouvelle naissance, Dieu a mis quelque chose dans notre vie. On voit ces films, on injecte des sondes, des machins, des trucs. Dieu a mis son esprit dans notre esprit. Dieu nous a donné quelque chose qui est indélébile. Son esprit qui jamais ne nous fait douter. J'aimerais qu'on regarde un petit peu le verset 8 qui est intéressant. Quand Jésus dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, tu ne sais pas d'où il vient et où il va. De quoi Jésus parle-t-il? Jésus parle du Saint-Esprit. On m'a dit qu'en grec, le mot « vent » et « esprit », c'est le même mot. Premièrement, le vent souffle où il veut. Nous ne pouvons pas maîtriser l'Esprit de Dieu. Personne ne peut empêcher, s'accaparer l'Esprit de Dieu. L'Esprit est libre. Il appartient à Dieu. Tu entends le bruit. Quand vous voyez dehors les feuilles qui bougent, pourquoi les feuilles bougent? Il y a du vent. Vous l'avez vu, le vent? On ne l'a pas vu. C'est incroyable. On est habitué, on le sait. Vous voyez de la poussière qui vole. Tiens, la poussière s'est volée. Mais non, c'est le vent. Et puis vous avez un meurtrier, un assassin, qui devient un évangéliste. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est encore le vent. C'est l'Esprit de Dieu qui a transformé une vie. Quand l'Esprit de Dieu agit, ça devient visible. Visible dans nos vies. Visible pour notre entourage. Et nous le ressentons. Nous ne savons pas d'où il vient. Et nous ne savons pas où il va. Dieu a l'entière maîtrise de son esprit. Souvenez-vous de la Pentecôte. Soudain, un vent violent, bruyant, est rentré dans la maison. Et il y a eu des flammes, des langues de feu sur la tête des apôtres, de ceux qui étaient là. Le résultat, ça n'a pas été une panique. Ça a été des louanges à la gloire de Dieu. Pardon. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien. Le monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment une jungle mortelle, dangereuse. Et dans ce monde, le Saint-Esprit opère au travers de ses enfants. Quelque chose d'important aussi, c'est que avant que la feuille ne bouge, il y a du vent. L'Esprit agit d'abord. Nous sommes la conséquence de l'action de l'Esprit dans nos vies. En Éphésiens 2, 8 à 9, il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc nous sommes d'accord que l'action principale, c'est l'action du Saint-Esprit. Notre action est secondaire, mais nécessaire, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Mais c'est, Jésus a bien dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Même dans le choix de Dieu, nous ne pouvons pas nous mettre en avant. On la vit avec Dieu. Tous ceux qui croient en lui, Jésus, auront la vie avec Dieu pour toujours. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Quand Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire que je naisse de nouveau ? Jésus lui donne, au verset 15 de Jean 3, il lui donne la clé. Il lui dit, tous ceux qui croient dans le Fils de l'homme. Jésus lui donne la clé. Et quand même, il faut dire que Nicodème, 3 ans plus tard, il sera celui qui ira chercher le corps de Christ. Il sera venu à la foi. À ce stade-là, il n'est pas né de nouveau. Plus tard, ça se sera fait. Comment vont-ils croire? Comment vont-ils croire? J'aimerais courtement m'arrêter sur un personnage, un homme. Jésus a dit de cet homme, il n'y en a pas eu de plus grand que lui. C'est qui? C'est Jean. Jean qu'on appelle Jean le Baptiste. Moi, j'aimerais l'appeler Jean le témoin, parce que c'est un modèle pour nous. Jean 1, verset 6, « Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. » Jean est venu pour être témoin. On n'a pas le temps, mais ça serait intéressant de regarder en détail le parcours de Jean. C'est un miracle, Jean, c'est un enfant miracle. Ses parents étaient bien âgés, incapables d'avoir des enfants, ils n'en avaient pas eu. Et Dieu intervient. Et il est dit que Jean, dans le ventre de sa mère, était déjà rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. C'est intéressant. Et Dieu a envoyé cet homme pour être tout simplement témoin. Qu'est-ce que ce témoin a fait d'extraordinaire? Je pense que la chose la plus extraordinaire que Jean ait dite, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Quand je vous disais que le problème clé de notre humanité, c'est le péché, là c'est confirmé. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà ce que Jean a dit. Et il a fait plus. Jean a baptisé Jésus. Et quand il voulait d'abord pas, puis Jésus a dit si, il faut le faire comme ça. Et quand Jésus est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe, et Jean a vu cela, et Jean a reconnu cela. Il l'a vu avec les yeux de l'Esprit, il a su reconnaître, et il a entendu la voix. « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean a reconnu que, et il a dit, « J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur Jésus. » Et voilà la chose importante. Il dit, oui, j'ai vu, j'en suis témoin, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Bon, il était gonflé de dire ça. Comment pouvait-il dire que Jésus est le Fils? Il le savait, il avait cette certitude en lui. Est-ce qu'il l'a dit par lui-même? C'est l'Esprit Saint en lui-même qui lui a fait dire cela. Pouvons-nous dire Jésus est Christ, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous fait dire cela? Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Demandez quelqu'un dans la rue de le dire. Les gens ne peuvent pas. C'est que si nous sommes enfants de Dieu que nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Voilà ce que Jean, le témoin qu'il est, que Dieu a voulu. Et il a clairement dit, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas l'Élie, je suis juste un témoin. Dieu a envoyé un témoin. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Soyez mes témoins. Je vous envoie comme mes témoins. Il est le témoin de celui qui donne la vie. Et un peu plus loin, dans Jean 3, il y a une discussion sur la purification. J'aimerais lire cela avec vous. Et ses disciples, ils ont un problème. Ils disent, maître, de l'autre côté du Jourdain, il y a quelqu'un avec toi. Tu as donné ton témoignage sur lui. C'est Jésus. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Il baptise et tout le monde va le trouver. Quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ses deux disciples, boum, ils ont tourné le dos, ils ont suivi Jésus, ils ont dit, tu vas où? Et Jésus a dit, venez, voyez. Jean a perdu ses disciples. Et Jean leur répond, personne ne reçoit un pouvoir sauf si Dieu le donne. Vous-même, vous êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le mari, c'est le marié. Le marié, c'est Jésus. La mariée, c'est l'Église. Mais l'ami du marié, c'est Jean, reste près de lui. Il l'écoute et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie et maintenant ma joie est complète. Voilà le bonheur de Jean. C'est d'entendre la voix de Jésus, d'être près de Jésus, d'être son ami. Et son bonheur est complet. Et alors il dira quelque chose au verset 30. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place, et moi, de moins en moins. Qui d'entre nous peut dire ça? Vous voyez, quand Jean expliquait à ses disciples qui est Jésus, ses disciples l'ont quitté. Donc, on peut dire, c'est un peu un échec dans son ministère. Son église n'a pas grandi, son auditoire n'a pas grandi, il a diminué. Et ils sont tous allés vers Jésus. Il y a là une différence fondamentale qu'il nous faut faire. Est-ce que nous voulons du succès? Le succès, c'est les hommes qui vont nous le donner. C'est les médias qui vont nous encenser. Le succès, c'est par les hommes, pour les hommes. Mais Jésus nous appelle à autre chose. Celui qui est attaché à moi porte beaucoup de succès. Non, il parle de fruits. C'est totalement différent. Je peux avoir du succès dans mon entreprise, mais ne porter aucun fruit et être complètement stérile pour Jésus. Je peux avoir du succès dans mes études et ne pas porter de fruits. Vous voyez la nuance? Qu'est-ce que nous voulons? Porter du fruit? avoir du succès? Les deux, peut-être. Qu'est-ce qui est le plus important? Jean a dit, le plus important, c'est Jésus. Donc pour moi, le plus important va être de porter un fruit. Et je ne peux porter du fruit que si je suis branché sur le tronc. Au printemps, vous coupez une branche de cerisier, vous la mettez dans l'eau, ça va fleurir, c'est magnifique. Mais vous n'aurez jamais de fruits. Vous n'aurez jamais de cerises. Vous aurez juste des fleurs, des feuilles, c'est tout. Mais si la branche reste branchée sur l'arbre, eh bien, il y aura des fruits. Vous voyez la différence? Jésus doit prendre toute la place. Que j'ai 12 ans ou 72 ans, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'âge pour se recentrer et pour vouloir la croissance de Jésus en nous implique que nous acceptions de réduire. Quand Jésus dit, toi, suis-moi, quelles sont les réponses? Laisse-moi d'abord enterrer mon père. Moi, d'abord. Toi, suis-moi. Moi, d'abord, aller faire autre chose. Ensuite, Jésus. Je ne veux surtout pas montrer du doigt qui que ce soit, parce que ça me concerne en premier. Il y a toujours 36 000 autres choses qui sont avant les choses importantes. Ce qui est important, c'est que nous nous rendions compte que nous n'avons pas la solution en nous-mêmes. Nous n'avons pas la solution en nous-mêmes. La solution, c'est Jésus et son Saint-Esprit. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'être son témoin, là où nous sommes. Ce n'est pas besoin d'aller au Laos, là où je suis. Mon champ missionnaire, c'est là les gens que je rencontre. Je vais vous raconter un petit truc qui nous est arrivé à Babette et moi. Nous étions dans les montagnes chez un ami et on buvait quelques verres de vin. Et puis il y avait des Allemands à côté de nous. Et puis on leur a fait goûter. Et voilà, on a fait des tartines avec un peu d'ail des ours qu'on allait chercher dans la montagne. Et puis on a engagé une petite discussion. Et puis il y a ce couple, j'ai eu à cœur de leur dire... Vous savez, pour moi, il y a les deux choses les plus importantes dans ma vie, c'est ma femme et c'est Jésus. Et alors elle me répond, elle dit, ah, mais moi, c'est mon mari et mes filles. Je dis, bah alors il vous manque quelque chose, c'est Jésus. Ah bon? J'ai dit, bah oui, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on a un peu discuté. Et quand on s'est séparés, elle m'a pris, elle m'a serré, je ne sais pas pourquoi. Alors depuis... Presque tous les jours, nous prions pour cette femme et son mari, pour que ce qu'elle a entendu, ça porte du fruit. Et je pense que c'est ainsi pour chacun d'entre nous. Tu pries pour tes enfants et le lendemain, Dieu répond. Ou des fois, il ne répond pas, ou il répond différemment. Mais Dieu est bon et il ne se trompe jamais. Vous êtes d'accord avec ça? Il y avait un roi en Afrique qui avait un serviteur chrétien. Et ce serviteur, tout le temps, il disait... Dieu est bon, et il ne se trompe jamais. Oh bon, ah, tu me casses les pieds. Bon, on va aller à la chasse au lion. Et le serviteur qui suit son maître, qui dit, Dieu est bon, il ne se trompe jamais. Pouf, il tombe sur un lion, et le lion, il attaque le roi, et ce lion lui bouffe le doigt. Et le roi furieux, il jette son serviteur en prison, et en prison, le serviteur, il dit, Dieu est bon, il ne se trompe jamais. Il reste en prison, comme le Joseph. Le roi repart. Et puis, au lieu de trouver un lion, il est pris par une tribu rivale, qui sont des cannibales. Et il se dit, on va faire un sacrifice, on va le manger. Et le serviteur, au fond de son cachot, il entend ça, il dit, Dieu est bon, il ne se trompe jamais. Et au moment où ils vont le sacrifier, ils se rendent compte qu'il lui manque un doigt. Et il dit, ah non, non, ce sacrifice, ça ne marche pas. On n'en veut pas. Et ils l'ont renvoyé. C'est un sacrifice incomplet. Et le roi rentre. Il vient voir son serviteur. Le serviteur, il dit, Dieu est bon, il ne se trompe jamais. Comment tu peux dire ça? Il a dit, tu vois, je serais allé avec toi. C'est moi qu'ils auraient bouffé. D'accord. Donc, quand il arrive des choses difficiles, des fois, n'accusons pas Dieu. On ne comprend pas toujours. Si Dieu permet des temps de sécheresse, de difficulté, Dieu est toujours là avec nous. Il sait pourquoi. Je voudrais terminer sur notre rôle de témoin à nous. Comme Jean-Baptiste, notre rôle, c'est d'être témoin. Et avec ce que Jésus dit concernant le Saint-Esprit, cela doit nous, quelque part, nous soulager, de dire, nous n'avons qu'une obligation de moyens et pas de résultats. D'accord ? Moi, en tant que chirurgien, je n'ai pas une obligation de résultats. J'ai qu'une obligation de moyens. Je dois faire tout ce que je peux, mais après, ça ne m'appartient plus. Et pour nous, enfants de Dieu, nous devons faire tout ce que nous pouvons, tout ce qui est à notre disposition, mais après, ça appartient au Seigneur. Parce que l'Église, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi, c'est l'Église du Seigneur, c'est son peuple, c'est son plan, c'est son royaume. Nous sommes invités. Donc, quel soulagement de dire, ben voilà, j'ai pas besoin de me charger des problèmes des autres. Je peux les apporter à Jésus. Mais je peux leur dire, voilà la solution. Voilà l'agneau de Dieu. Car c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. La foi vient de la parole, et la parole vient de ce qu'on entend. Non, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. D'accord ? Donc, soyons des porteurs de la parole. La parole, c'est qui ? C'est Jésus. Ben voilà. Alors, je suis en train de lire un livre de Oswald Chambers, certains connaissent, où il parle du maître et de son disciple. Et là, il insiste très fortement sur une notion. Il dit, ne venez pas avec vos valises, avec vos versets bibliques. Toi, tiens, je vais te passer ça, tac, ça te fera du bien. Non, pas du tout. Il dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons un témoignage à apporter. La première chose qui donne du crédit à Jésus, c'est notre témoignage. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie, ce que Dieu a changé dans ma vie. Ça, chacun d'entre nous peut le dire. Sinon, c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai, alors des fois, on est un peu gêné. Est-ce que je suis gêné de rentrer dans le royaume de Dieu ? Non, je suis content. Donc voilà la première chose que nous avons. Le premier outil, c'est mon témoignage. La deuxième chose que nous avons, qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il souffle d'où il veut, il vient comme il veut, mais il est maîtrisé par Dieu. Donc, c'est bon de savoir que cet esprit va parler à notre esprit, comme il nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous inspirer. L'Esprit de Dieu va nous donner les bonnes paroles au moment venu. Pas juste quelque chose qu'on a appris. Et qu'on... Laissons l'Esprit nous utiliser. Et montrons Jésus. Voilà la solution. Alors, est-ce que ce message de Jésus à Nicodème, est-ce qu'il est d'actualité aujourd'hui ? La nouvelle naissance. Est-ce que ce n'est pas un peu ringard ? Est-ce que ce n'est pas un peu décalé ? Faudrait formuler ça autrement, non ? Est-ce qu'il y a des gens qui savent écrire ? Ils pourraient formuler ça, on pourrait faire un PowerPoint. C'est le seul message que nous avons. Nous n'avons qu'un Christ crucifié et ressuscité à annoncer. Et nous n'avons qu'une chose, un chemin, c'est la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Voilà, nous sommes des porteurs de cette parole. Que Dieu nous inspire, que Dieu nous dirige, que Dieu nous réjouisse, que notre joie soit comme celle de Jean, d'être collé au Seigneur, afin qu'ils entendent et qu'ils se repentent et qu'ils croient. Amen. On prie ensemble. Seigneur, je te bénis de tout cœur pour ces paroles fantastiques que tu as dit à Nicodème et que tu nous dis aussi à nous aujourd'hui et que nous avons sur notre cœur et que nous pouvons partager avec d'autres. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es la vie, tu es la lumière, tu es notre espérance. Et Seigneur, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Donc nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas désespérés. Mais en toute chose, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs et nous voulons être dans la joie parce que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Amen.